Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi nos conférences l'année dernière, c'était peut-être un petit peu difficile. On s'est un petit peu cassé la tête l'année dernière sur le mystère de notre Seigneur, ces deux natures dans une seule personne. Alors c'est sûr que c'est le mystère, donc on a un petit peu souffert, un peu patiné peut-être. Cette année, je pense que ça sera un peu plus facile, puisque nous allons simplement essayer de voir comment bien ce mystère s'est révélé, s'est exprimé, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Alors nous suivrons tout simplement, plus ou moins, peut-être pas chaque événement, nous ne commenterons pas chaque événement de sa vie, parce que nous n'en finirions pas. Certains sont simples à comprendre, d'autres sont un peu plus difficiles à comprendre. Ouais. Et nous essaierons peut-être de mettre un peu d'ordre, justement, d'essayer de voir comment s'est déroulée la vie de notre Seigneur, puisque nous avons les quatre évangiles, mais quatre récits qui ne se contredisent pas, bien sûr, hein, puisqu'ils sont tous les quatre inspirés par le Saint-Esprit, mais chacun des quatre évangélistes ne dit pas toujours la même chose que l'autre. Ouais. Certains racontent tel événement que ne raconte pas tel autre, etc. Donc il faut compléter un petit peu tout cela et faire ce qu'on appelle un peu une synopse. C'est de mettre les quatre évangiles à la suite les uns des autres, ouais, pour arriver à avoir un récit continu, complet, de tout ce que le Saint-Esprit a voulu nous laisser sur la vie de notre Seigneur. Sans doute tout n'est pas dit, pensez donc, hein, tout ce que Jésus-Christ a dit ou fait pendant ces 33 années n'est pas contenu dans les quatre évangiles. Il a fait et dit beaucoup d'autres choses. Hein. C'est ce que dit Saint Jean à la fin de son évangile, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans les évangiles. Mais nous avons là, dans les quatre évangiles, l'essentiel de ce que nous devons savoir, l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour notre salut. Le reste, ben ma foi, il faut croire que c'est très intéressant, bien sûr, ça nous intéresserait de savoir ce qu'il a fait ou dit à tel ou tel moment, mais si le bon Dieu ne nous l'a pas révélé, c'est que ça n'était pas nécessaire. Voilà. Alors nous suivrons simplement le texte des évangiles. Si vous l'avez, je vous recommande là. C'était en vente pendant un certain temps ici, aux tables de presse. C'est le livre du chanoine Weber, qui s'appelle, je crois, « Les quatre évangiles en un seul ». Oui, c'est ça, « Les quatre évangiles en un seul ». Alors, vous avez tout un tas d'éditions qui ont été faites d'auteurs différents, depuis toujours presque, qui ont fait justement comme ça un collationnement des quatre évangiles pour faire un récit continu. Alors, tous sont bons, hein, et nous suivrons donc tout simplement ce récit. Et en prenant comme commentateur principal, bien sûr, notre bon et grand saint Thomas d'Aquin, hein, qui donne des lumières, parfois des éclaircissements, des explications qui sont très, très belles et très enrichissantes. Hein. Et déjà, justement, c'est à saint Thomas d'Aquin que nous emprunterons l'introduction un peu de ces conférences. C'est dans un opuscule qu'il a intitulé « Les explications de la foi » ou des motifs de la foi, des « rationibus fidei ». Et voici ce qu'il dit, et c'est là peut-être l'explication la plus complète de toute la vie de Jésus-Christ. Le Christ a pris la nature humaine, dit saint Thomas d'Aquin, donc, pour réparer la chute de l'homme. C'est pour cela qu'il s'est incarné, hein, c'est pour réparer la chute. Il a donc fallu que, dans cette nature humaine, le Christ subisse les souffrances et accomplisse les actions qui pouvaient apporter un remède au péché. Or, en quoi consiste le péché de l'homme? Sinon, en un attachement aux réalités corporelles qui lui fait oublier les biens spirituels. Et voici donc le dessein que le Fils de Dieu a eu en vue, en prenant la nature de l'homme. Montrer par ses actions et ses souffrances que les hommes devaient tenir pour rien les biens ou les maux temporels, de peur que par suite d'un amour désordonné des réalités temporelles, il n'eut ce moins d'attachement aux choses spirituelles. Et ça, nous verrons, hein, beaucoup d'actions dans la vie de Jésus-Christ ont comme seule raison d'être de nous montrer l'exemple. Des tas d'actions, de choses qu'il va faire, qu'il n'avait pas besoin de faire pour lui-même, en raison de sa divinité, etc., mais qu'il fait pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer comment nous devons vivre, comment nous devons agir. Ouais. Donc, montrer par ses actions et ses souffrances que les hommes devaient tenir pour rien les biens ou les maux temporels, de peur que par suite d'un amour désordonné des réalités temporelles, ils n'eussent moins d'attachement aux choses spirituelles. Aussi, voyez la conduite du Christ. Il a choisi des parents pauvres, quoique parfaits en vertu. afin que personne ne se glorifie de la noblesse de sa naissance et des richesses de ses parents. Il a mené une vie pauvre pour nous apprendre à mépriser les richesses. Il a vécu sans honneur pour nous arracher à l'amour désordonné des honneurs. Il a supporté les fatigues du travail, la soif, la faim, les châtiments corporels, afin qu'à cause des rigueurs de cette vie, nous ne nous détournions pas du bien de la vertu en poursuivant les plaisirs et les jouissances. Et enfin, il a souffert la mort pour que personne ne déserte la vérité par peur de la mort. Et le genre de supplice qu'il a choisi, le supplice de la croix, est le plus outrageant, afin que personne ne craigne de s'exposer pour la vérité à une mort infâme. En outre, il convenait que le Fils de Dieu fait homme subisse la mort afin d'exciter par son exemple les hommes à la vertu. Ainsi devait se vérifier le mot de saint Pierre dans sa première épître : le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Et une très belle page de saint Thomas d'Aquin qui dit en termes très simples, eh bien, l'essentiel de ce que va être la vie de notre Seigneur, cette vie d'humiliation, de pauvreté, d'opprobre, sans gloire aux yeux des hommes, et au contraire, eh bien, pour nous montrer justement ne pas rechercher les biens de la terre, les gloires de la terre, etc. Nous ne sommes pas faits pour ça. Ouais. Ouais, si déjà on a compris ça, bien, il y a beaucoup de choses peut-être qui vont s'expliquer depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Alors si donc nous voulons commencer un peu à étudier maintenant la vie de Jésus-Christ, bien, il faut commencer par le premier instant de sa vie. Tout premier instant de sa vie, bien, qui est, non pas encore la nativité, bien sûr, non pas Noël, mais l'Annonciation. Et voilà, c'est ce jour-là que notre Seigneur prend chair dans le sein de Notre-Dame. C'est ce jour-là que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne dans le sein de Notre-Dame, le jour de l'Annonciation. C'est ce jour-là qu'a lieu l'incarnation. C'est ce jour-là qu'a lieu dans le sein de Notre-Dame, donc la consécration sacerdotale de Jésus-Christ et également sa consécration royale. Là, dans le sein de Notre-Dame. C'est magnifique, ça. Alors, est-ce que, vous voyez, ce récit de l'Annonciation, vous le connaissez un peu, hein, je pense, 6 mois après, etc., Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange, étant entré dans sa demeure, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, etc. » Vous connaissez un peu ce récit, bien sûr. Alors, est-ce que cette annonciation, c'est une question que se pose saint Thomas d'Aquin, que peut-être nous ne nous pensons pas nous-mêmes, parce que, bon, nous savons qu'elle a eu lieu, mais est-ce qu'elle était nécessaire, cette annonciation? Parce que, après tout, c'était nécessaire qu'il y ait un ange qui vienne voir Notre-Dame et qui lui dise, ben voilà, je vous salue, vous allez être mère, etc. Est-ce que le bon Dieu ne pouvait pas, comme ça, s'incarner dans le sein de sa mère sans le lui dire, quoi, pratiquement? Je pense que déjà vous comprenez que c'est un petit peu, peut-être un peu délicat, mais peut-être un petit peu incorrect, vous voyez, de s'incarner dans le sein de Notre-Dame sans le lui dire, sans la prévenir, comme qu'il se passait une grande chose en elle. Et puis il y a quelques autres raisons, oui, qui sont belles, qui sont intéressantes. Vous voyez ce que dit saint Augustin, par exemple, pour expliquer qu'il était convenable que Notre-Dame soit avertie avant de concevoir son fils. Il dit que Marie fut plus heureuse en percevant la foi au Christ qu'en concevant sa chair. Et c'était une plus grande joie pour Notre-Dame, eh bien, de recevoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, don de Dieu, oui. Donc de croire en l'incarnation du Messie, ça y est, ce Messie que l'on attendait, bien voilà, ça y est, il prend chair, il est là, il est incarné. Pour elle, c'était une joie immense, beaucoup plus grande que la joie d'être sa mère. Oui. Et c'est vrai, ça. Oui, pour quelqu'un qui a la foi, vraiment, qui vit de foi, et qui ne se contente pas justement des réalités simplement naturelles, terrestres, etc. C'est quelqu'un qui, dans toute la vie, et irait dans le cœur du bon Dieu, c'est sûr, c'est une joie beaucoup plus grande. Et pour elle, sans doute, ça a été donc une plus grande joie, oui, de recevoir cette foi dans l'incarnation, cette foi au Christ, qu'en concevant dans sa chair. Et il ajoute encore, oui, que la proximité maternelle, oui, donc la proximité d'une mère avec son enfant, n'aurait pas été utile à Marie si elle n'avait point porté le Christ avec plus de bonheur dans son cœur que dans sa chair. Oui, si Notre-Dame avait eu un amour maternel, naturel pour son fils, plus grand que sa foi dans la divinité du Christ, eh bien cette proximité naturelle ne l'aurait pas été très utile. Elle aurait joui au plan naturel de la proximité naturelle de cet enfant, ce qui est déjà bien, bien sûr, c'est beau, mais ce qui sort, c'est la foi. Oui, la racine du mérite, c'est la charité. Et ce qui donne la valeur à un acte comme cela, eh bien, c'est la foi qui est au cœur de cet acte. Et donc, il était plus important que Notre-Dame crût dans la divinité de son fils, oui, eh bien, que de l'avoir sur ses genoux. C'était beaucoup plus important. Ce qui sort, c'est la foi. Et ce qui a sauvé les justes de l'Ancien Testament, qui pourtant n'ont pas vu le Christ, eh bien, c'est la foi qu'ils avaient en lui. Et ce qui nous sauve, nous, qui ne voyons pas le Christ, c'est la foi que nous avons en lui. Eh bien, pour Notre-Dame, c'est pareil. Oui. La racine de son mérite, oui. Et l'utilité un peu de la proximité de son fils lui est venue davantage de la foi qu'elle avait en lui que de cet amour maternel, oui, d'une mère pour son enfant. Oui. Donc il fallait pour ça d'abord l'avertir, d'abord faire naître dans son cœur, dans son âme, la foi au Christ. Oui, la foi dans la présence du Christ, du Verbe incarné. Oui. Voilà. Il fait donc d'abord qu'elle croit avant eh bien, de le concevoir. D'autres raisons qui sont belles, mais enfin nous allons passer un petit peu, sinon nous n'en finirions pas. Il y a beaucoup de raisons que nous donne saint Thomas, mais une autre qui est très belle aussi, vous voyez, qui montre bien le rôle de Notre-Dame au moment de l'incarnation, et donc il était nécessaire justement qu'elle soit avertie pour donner son consentement à cette incarnation, parce que c'était la manifestation, oui, cette annonciation est la manifestation, dit saint Thomas d'Aquin, d'un mariage spirituel contracté entre le Fils de Dieu et la nature humaine. Un mariage spirituel entre le Fils de Dieu, entre Dieu, donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, mariage spirituel entre le Fils de Dieu et la nature humaine. Or, un mariage nécessite consentement, échange de consentement. Il faut que les deux consentent, hein, bien sûr. S'il n'y en a qu'un qui dit oui, ça ne marche pas. Il faut que les deux disent oui. Donc Dieu, eh bien, si on peut dire, le Fils de Dieu, a demandé eh bien, à sa mère eh bien, de bien vouloir l'épouser d'une certaine façon. Voilà. Lui, il a dit oui, et elle a répondu oui. Voilà, ça y est, le mariage spirituel est noué entre l'humanité et la divinité. Et donc, il fallait le consentement de la Vierge. Voilà. La Vierge a dit oui, et ça y est. Le mariage s'est consommé par l'incarnation du Fils de Dieu. Ouais. Alors, il est sûr que Notre-Dame, avant même, hein, avant l'incarnation, avait la foi dans le Messie. Ça, c'est clair, hein, elle connaissait bien les Écritures, et donc elle croyait dans le Messie, mais le Messie n'était pas là. Ouais. Et en tout cas, elle ne se doutait pas, et jamais dans son humilité même, elle n'avait eu l'idée, le soupçon, bien qu'elle puisse être elle-même la mère de Dieu. Et c'est cette foi-là, justement, qu'il a fallu faire naître dans son cœur. Ouais. Pas seulement croire d'une façon générale, vague, dans le Messie, qu'un jour le Messie viendrait, mais croire eh bien, que le Messie était là et qu'elle était sa mère. Et oui, car pour elle, même c'était un acte de foi. Elle ne le voyait pas qu'elle était la mère de Dieu. Il a fallu qu'elle croie également qu'elle était la mère de Dieu, que Dieu s'était incarné dans son sein. Donc elle a cru, elle a dit oui, et à ce moment-là, eh bien, notre Seigneur a pu s'incarner dans son sein. Et une autre question également que se pose saint Thomas d'Aquin, c'est, bon, c'est bien, d'accord, nous voyons bien, il était bien, donc qu'il y ait cette annonciation, qu'elle soit avertie, qu'on lui demande un peu son consentement, mais est-ce qu'il fallait que ce soit un ange? Après tout, pourquoi pas, moi, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, moi, c'est pas trop ce qu'on peut trouver. Il est vrai, quand on cherche un peu, on ne voit pas trop qui peut venir nous parler au nom de Dieu, mais enfin, ça peut être un prophète, ou je ne sais quoi, mais quelque chose comme ça. Pourquoi un ange? Et là, c'est une chose qui est intéressante aussi, et sur laquelle nous arrêterons peut-être quelques minutes, oui, parce que c'est une des raisons parmi les autres. D'abord, il y a une raison qui est assez simple. Le penchement, c'est ce rapport entre l'ange et la virginité. Mais l'ange, qui est une créature toute spirituelle, hein, sans corps, sans matière, oui, il y a un rapport très très intime, justement, entre l'ange et la virginité. Hein, puisque il est assez classique de dire que quelqu'un qui est vierge, quelqu'un qui est pur, eh bien, mène une vie angélique. Et il est sûr que les anges sont les créatures les plus pures qui soient. Or, la Vierge était la créature la plus pure qui soit parmi les êtres humains. Et donc, il était tout à fait convenable, oui, que ce soit un ange qui s'approche d'elle, eh bien, pour l'apporter cette grande nouvelle, hein, de l'incarnation du Messie. Oui. Bon, il y a cela. Mais il y a aussi une autre raison. Eh bien, qui se rapporte justement à la raison de l'incarnation, au motif de l'incarnation. Hein. Que vient faire notre Seigneur? Il vient réparer le péché originel, essentiellement. Il vient sortir, sauver l'homme de l'état de péché dans lequel il est depuis le péché originel. Eh bien, il y a une réponse, oui, dans toutes, si on peut dire tout le mécanisme de l'incarnation et de la rédemption, il y a comme une réponse, une réplique au mécanisme de la chute. Et c'est ce que dit le vénérable Bède, par exemple, là. La première cause de la perte des hommes fut quand le serpent fut envoyé par le démon à la femme qui devait tromper l'esprit d'orgueil. Et c'est un ange, l'ange du mal qui a fait tomber la femme, et bien c'est l'ange du bien. C'est un ange qui vient annoncer à la femme et bien que le salut arrive, que le salut approche. Et vous avez le cardinal Biot, vous connaissez peut-être un peu le cardinal Biot, bon, c'était un jésuite du début du siècle, un grand théologien, qui a écrit là-dessus un petit article et très très intéressant, où il dit que Dieu, précisément, ne s'est pas contenté de sauver l'humanité, mais encore il a voulu calquer exactement le plan de la rédemption sur celui qu'avait suivi pour nous amener à ruine le tentateur infernal. Le bon Dieu, eh bien, il va se moquer de Satan un peu. Voilà, mais t'as pris tel moyen, mais moi je prends le même moyen. Mais à rebrousse-poil, si on peut dire. Oui. Il fallait infliger à son orgueil une peine bien plus amère encore, en prenant comme base d'opération, à l'effet de relever l'homme, le plan et l'artifice de Satan lui-même. Et pour infliger à son orgueil encore une peine supplémentaire. Oui. Dieu va suivre exactement le même plan qu'avait suivi Satan pour faire tomber Adam et Ève. Comment c'était, en gros, manigancé la ténébreuse machination? Eh bien, d'abord, il fallait lier parti avec la femme, la séduire par une amitié feinte. Oui, une sorte de séduction. Bon. Ensuite, s'en servir comme d'entremetteuse auprès d'Adam, comme d'intermédiaire. Oui. Séduire la femme, ensuite, eh bien, l'utiliser comme intermédiaire auprès d'Adam, en vue d'amener Adam à faire lui aussi, par complaisance au moins, pour son épouse, pour sa compagne. Faire plaisir à sa femme. Ce qu'elle n'aurait pas craint de faire, elle, la première. Et enfin, troisièmement, obtenir enfin par là le consentement d'Adam. Oui, voilà. Faire tomber Adam, mais d'abord on fait tomber Ève, on l'envoie comme intermédiaire auprès d'Adam, et on fait tomber Adam. C'est pas mal, c'est bien calculé, ça. Il est malin. Telles avaient été les finesses de Lucifer, que Dieu, maintenant, par un admirable jugement, retournait de point en point contre leur auteur. Voici donc d'abord la femme pécheresse avec qui le serpent avait lié amitié et par la séduction de laquelle il avait commencé son triomphe, et Dieu lui oppose une nouvelle femme, dont il fera lui-même l'ennemi mortel du serpent, inimicitias ponam interte et mulierem. Voilà, il oppose à Ève, et bien la nouvelle Ève, c'est Notre-Dame. Voici en second lieu le chef de notre race asservi à Satan, par l'entremise de la femme séduite et en qui l'humanité entière venait d'encourir l'esclavage du péché, et Dieu lui oppose le nouvel Adam, le libérateur, donné au monde par l'entremise de la nouvelle femme, de celle qui ne connaîtra point d'homme, bien appelée pour cette raison Semen Ilius, etc. Et enfin, voici cette postérité spirituelle que Satan s'était créée sur la terre, cette postérité que le dédain ou le refus du bienfait de la rédemption lui devait conserver ici-bas. Postérité, donc toute l'humanité pécheresse. Et Dieu lui oppose, eh bien, quelle est cette autre postérité que Dieu oppose à cette postérité de Satan? Eh bien, Dieu lui oppose cette grande Église, corps mystique et plénitude de Jésus-Christ, selon la parole de l'apôtre. Oui, réponse. La femme, la nouvelle Ève. Adam, le nouvel Adam, Jésus-Christ. Et puis ensuite, cette postérité déchue, donc l'humanité déchue, et on lui oppose l'Église, rachetée par notre Seigneur. C'est ainsi que l'ordre de la réparation devait suivre parallèlement l'ordre de la ruine. Mais, ce n'est pas tout. Et Dieu va aller encore plus loin. Il va aller jusqu'au bout. Jusque dans les moindres détails, si on peut dire, le bon Dieu va singer Satan. Ce n'est pas tout à fait ça, mais enfin, oui, il va suivre le même plan que Satan, pour le coincer vraiment dans tous les détails. Il enrage le Satan. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et Dieu est le plus fort. Heureusement. Et oui, il y aura donc le nouvel ange. Oui, il y a eu l'ange du mal, Satan, Lucifer. Eh bien, il y a le nouvel ange. Il fallait qu'il y ait un ange également, là, au départ de l'œuvre de notre restauration. Comme il y a eu l'ange au départ dans l'œuvre de notre chute. Le nouvel ange, l'ange Gabriel, qui interviendra pour le salut de la même manière exactement que l'ange Lucifer était intervenu pour notre perte. Oui. Et comme un petit peu, c'est Lucifer a séduit Ève, eh bien, Gabriel va non pas séduire Notre-Dame, mais voilà, obtenir son consentement de la même façon. Il y aura encore, oui, jusqu'où ça va, il y aura encore le nouvel arbre de la croix, en opposition à l'arbre de la science du bien et du mal. L'arbre par lequel on a été vaincu, eh bien, c'est un arbre, un nouveau bois qui va remporter le triomphe, c'est le bois de la croix. Et ce que chante l'Église, je crois, dans la préface de la Sainte Croix. Et il y aura même encore, oui, non seulement un nouvel Adam, non seulement la nouvelle Ève, non seulement la nouvelle postérité, non seulement le nouvel ange, non seulement le nouvel arbre, mais il y aura même le nouveau fruit, cueilli sur le nouvel arbre, et nous voulons dire la Sainte Eucharistie. Voilà le vrai pain de vie. La Sainte Eucharistie, destinée à réparer tout le mal que le fruit cueilli à l'arbre fatal nous avait causé d'abord. Voyez, voilà, c'est pourquoi donc, bien sûr, ce n'était pas strictement nécessaire, Dieu aurait pu faire autrement, mais ça convenait tout à fait, bien que ce soit un ange qui vienne là, auprès de Notre-Dame, et bien lui proposer d'être la mère de Dieu. Et bien ensuite, une autre question sur cette annonciation, c'est un événement qui est très très important, l'annonciation, hein. très important, c'est une des plus grandes fêtes de l'Église, hein. Tout est beau dans l'Église, toutes les fêtes sont grandes, mais cette annonciation, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'en est passé des choses ce jour-là. Hein. Ah, ça ne m'étonne pas que le bon Dieu ait pris Monseigneur ce jour-là. Ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, bon. Et au départ, oui, bon, ça, peut-être nous en parlerons tout à l'heure, si nous avons le temps, la fête de Noël, la date de la fête de Noël, au début, sous Léon, on ne savait pas très bien quel jour exactement était né notre Seigneur. La date de la fête de Noël a été fixée en fonction de la date de l'Annonciation. Oui. La date de l'Annonciation avait été fixée avant celle de Noël, oui. Le 25 mars. C'est une fête plus, quant à la date au moins, plus ancienne que celle de Noël. Et oui, on a fixé Noël au 25 décembre, parce que ça fait juste le temps qu'il faut, quoi, hein, pour que, voilà, après la conception, bien, il y ait la naissance. Oui. Mais c'est la fête de... C'est la date du 25 mars qui est antérieure, hein, celle du 25 décembre. Oui. Donc, c'est... Oui, cette annonciation, donc, saint Thomas d'Aquin se pose encore une question. C'est amusant, en fait, amusant. Je suis sûr que c'est des questions qu'on ne nous a jamais posées, ni moi non plus, d'ailleurs. Oui. Mais des questions qui... Heureusement que saint Thomas d'Aquin se les ait posées, parce que ça nous ouvre tout un tas de très, très, très belles choses, là, sur ce petit événement de l'annonciation. Il se demande, mais justement, si c'est la façon dont s'est faite l'annonciation... C'est bien déroulé. Oui, bon, un petit peu, bon, ce qui s'est passé, là, l'ange qui rentre, qui salue la Vierge, la Vierge qui est troublée, ensuite l'ange qui répond, ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu, voici que vous concevrez, etc., la réponse de Notre-Dame. Est-ce que tout ça, ça s'est passé bien, quoi? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que cela se passât autrement? Bien sûr que non, tout ce que fait le bon Dieu est bien fait, c'est sûr, mais essayez de comprendre un petit peu pourquoi. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Et voici les explications que donne saint Thomas. Alors vous avez là-dessus, sur cet événement, des explications plus détaillées encore dans un petit ouvrage de saint Thomas d'Aquin, qui est l'explication, tout simplement, de la salutation angélique. Ça existe, ça aussi. C'était vendu, je crois, pendant un certain temps aussi, aux tables de presse, là. L'explication du « Je vous salue Marie », du « Notre Père », du « Je vous salue Marie », bon, beaucoup plus détaillé que dans ce petit article-là de la Somme théologique, mais c'est déjà bien, bien beau. Ouais. Alors donc, bien sûr, cette annonciation s'est déroulée de la façon la plus conforme, la plus convenable, bien sûr, mais pourquoi? Eh bien, parce que l'ange, envoyé par Dieu, et donc Dieu, finalement, se proposait trois choses au sujet de la Vierge. Il fallait d'abord bien la rendre attentive. Donc, un petit peu solliciter son attention. Oui, voilà. Elle était là, toute perdue, en oraison, certainement. Je ne sais pas trop ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle faisait le ménage, je ne sais pas. Mais enfin, certainement, son cœur était tout près du bon Dieu. Oui. Et donc, il fallait attirer un peu son attention sur ce qui allait se passer. Qu'elle fasse attention au message, hein, qu'on allait lui délivrer. Oui. Ensuite, il faudra l'instruire. Donc, capter son attention d'abord. Ensuite, eh bien, l'instruire. Voilà, lui expliquer quelque chose. L'instruire du mystère de l'incarnation qui allait s'accomplir en elle. Et puis, troisièmement, après l'avoir alerté un peu, après l'avoir instruite, eh bien, il fallait obtenir son consentement. Voilà. Obtenir, eh bien, lui donner des raisons, donc, pour qu'elle dise le oui que Dieu attendait. Ouais. Alors, tout d'abord, il faut attirer son attention. Et pour attirer son attention, eh bien, il faut quelque chose d'un peu nouveau, de quelque chose d'insolite, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Alors déjà, la visite d'un ange, c'est pas très fréquent quand même. Ouais. Et puis ensuite, en plus, et c'est surtout ça qui va surprendre un petit peu Notre-Dame, ouais, c'est pas, bon, peut-être la visite de l'ange quand même, je pense, mais surtout, c'est la salutation que l'ange va lui adresser. « Je vous salue pleine de grâce ». Et quand on réalise ce que cela signifie, je vous salue pleine de grâce, eh bien on comprend un petit peu que la Vierge a été un peu troublée. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, dans un petit passage un peu plus loin, pour une âme ou un cœur humble, rien n'est plus étonnant que d'entendre parler de son excellence. Eh oui, pour quelqu'un qui est vraiment humble, et Dieu sait si la Sainte Vierge était humble, je vous salue pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est sûr, alors là, ça l'a étonné, et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, elle était attentive, c'est clair. Oui. Tellement elle était surprise par cette salutation à laquelle elle était loin de s'attendre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon. Alors, dans cette salutation, l'ange marque d'abord, nous dit saint Thomas d'Aquin, l'aptitude de la Vierge à la conception. Ouais. Il lui dit qu'elle est apte, qu'elle est donc tout à fait capable de devenir la mère de Dieu, en lui disant bien qu'elle est pleine de grâce. Puisqu'elle est pleine de grâce, et oui, elle peut être la mère de Dieu. Ensuite, eh bien, il lui annonce la conception, en lui disant quoi? Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Et enfin, il lui annonce cet honneur qui s'ensuivra de la conception, en lui disant, vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Oui, c'est très beau tout cela. Oui. Quand nous disons le je vous salue Marie, est-ce que nous réalisons un petit peu tout ce qu'il y a derrière ces paroles de l'ange, hein? Et ça serait bien justement que lorsque nous récitons le je vous salue Marie, bien, nous adressions cette même salutation et ces mêmes compliments, cette même louange à notre bonne mère. Oui, voilà. Et elle est pleine de grâce, donc elle est tout à fait digne d'être la mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie parmi toutes les femmes. L'honneur immense, la gloire de Notre-Dame parmi toutes les femmes. Alors il est évident, vous voyez, que tout ça, la Vierge, sans doute, l'a compris. La Vierge était intelligente, et elle est toujours très intelligente. Hein. Attention, hein. Son âme est ornée de toute une série de vertus exceptionnelles, hein, que nous sommes loin d'imaginer. Et donc, elle a tout à fait compris ce que signifiait cette salutation. Alors, effectivement, elle a été surprise et attentive. Et après, eh bien, l'ange a pu continuer. Oui. À ces paroles, Marie fut troublée. Elle se demandait ce que pouvait être une telle salutation. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il vient m'adresser une telle salutation? Et là, l'ange, eh bien, maintenant, va pouvoir lui expliquer, l'informer, donc l'instruire sur ce qui allait se passer. Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Essayez un petit peu d'imaginer ce que ça a dû être un petit peu, ce qui s'est passé dans l'âme de Notre-Dame lorsque elle a entendu tout ça, quelque chose d'extraordinaire. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne sera sans fin. Voilà. Voilà. Tout ce qui est expliqué à Notre-Dame. Voilà. Et tout cela, bien, donc ce Fils du Très-Haut, eh bien, c'est lui qu'elle va concevoir dans son sein. Donc ça, c'est donc l'instruction, vous voyez, que lui délivre l'ange sur le mystère de l'incarnation. Il annonce donc d'abord la conception, l'enfantement. Voici que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils. Ensuite, il montre la dignité de l'enfant conçu. Et non seulement vous concevrez un fils, mais ensuite il lui décrit un peu quelle sera la grandeur de cet enfant. Oui. Il sera grand. On l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, etc. etc. Oui. Et enfin, alors ça, ce sera l'explication qui viendra ensuite, voyez. Quand Marie, après, s'est demandé, mais comment cela se fera-t-il, puisque j'ai résolu de rester vierge, ouais. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint surviendra en vous. Voilà, ça c'est la fin, si vous voulez, de l'explication. L'ange lui explique, eh bien, comment cela va se faire. Voilà. Et non seulement la conception, la dignité de l'enfant conçu, mais également, eh bien, le mode, si vous voulez, le moyen de cette conception. Voilà, pas besoin d'homme, etc., aucun problème, hein, c'est l'Esprit Saint qui viendra en vous et qui concevra. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et puis enfin, troisièmement, troisième intention, troisième dessein de Dieu et de l'ange, eh bien, il s'agit d'amener Notre-Dame à donner son consentement. Bon, c'était pas très difficile, hein. On imagine mal comment la Sainte Vierge aurait pu dire non, mais enfin, sous les quelques arguments un petit peu supplémentaires pour enlever toute hésitation, toute inquiétude peut-être chez la très sainte Vierge, eh bien, et voici que votre parente Élisabeth, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait stérile en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, voilà, donc, pour que vraiment elle n'ait plus aucune hésitation à dire son oui, eh bien, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu, avec l'exemple d'Élisabeth, hein, la femme stérile, eh bien, qui est pourtant mère, par l'œuvre de la toute-puissance de Dieu. Voilà. Et c'est là, bien sûr, que Notre-Dame, eh bien, ne peut plus différer davantage son consentement. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et voilà, le plus grand moment, peut-être, de la vie des hommes. Hein. C'est vraiment les moments décisifs. C'est à ce moment-là que tout bascule dans la vie des hommes, hein. dans la vie de l'humanité. Bien sûr, il y aura le calvaire, qui est le moment de notre rachat, l'acte de notre salut, mais si la Vierge n'avait pas dit « Voici la servante du Seigneur », eh bien, on serait toujours en panne. Qu'est-ce que vous voulez faire, ça? Il n'y a rien à faire, rien à faire. Allez, la nouvelle Ève. Hein. Ah. Et bon, voilà, et c'est donc tout le commencement, eh bien, de la vie de notre Seigneur. Alors ensuite, bien sûr, il y a la visitation. Je vous laisse un petit peu méditer, tout seul, c'est pas très compliqué. J'aurais bien des choses à dire sur la visitation, mais ça... Bien sûr, notre Seigneur est là, qui agit dans le sein de sa mère, hein, qui sanctifie déjà son précurseur, Saint Jean-Baptiste. Mais enfin, ce n'est pas directement la vie de Jésus-Christ. Et il faut donc nous en arriver tout simplement, 9 mois après, bien, à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette naissance mystérieuse, et dont il est toujours un petit peu difficile de bien parler. Saint Thomas en parle quand même, les évangiles en parlent, mais de façon très très sobre, hein. C'est le récit, bon, d'abord des circonstances de la naissance, cet édit de César qui ordonne un recensement. Or, la Vierge et Saint Joseph étaient descendants de David, et c'était une coutume dans les tribus juives, eh bien, de se faire recenser au pays des ancêtres. Donc il fallait que tous les descendants, eh bien, aillent au lieu... À la ville natale, si l'on veut, des ancêtres, pour se faire renombrer, se faire recenser. Et donc, eh bien, aucun problème, Saint-Joseph et Notre-Dame, bien qu'elles soient en situation très, très, très avancée, peut-être un petit peu inconfortable, voyez, eh bien, ils n'hésitent pas à prendre la route, et c'est une route qui est longue, hein. Ils habitaient Nazareth, de Nazareth à Bethléem, eh bien, cela fait à peu près, je ne suis jamais allé en Palestine, mais ceux qui y sont allés, eh bien, le diront mieux que moi, au moins une centaine de kilomètres, je crois 110 ou 120 kilomètres, ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'autocar, bien sûr, hein, tout cela se faisait à pied, ou à dos de mulet, ou d'âne, etc., donc cela a pris quelque temps, quand même, surtout avec une femme sur le point d'enfanter, et Saint-Joseph était certainement très très attentif à ne pas bousculer les choses, à ne pas brusquer, hein, son épouse, et donc, voilà, un long voyage, fatigant, et puis l'arrivée à Jérusalem, et là, ben, tout est plein, hein, vous connaissez l'épisode, tout est plein, il n'y a même pas de place pour eux à l'hôtellerie, quand même un peu fort, hein. Et tout cela a été voulu par Dieu, le bon Dieu aurait très bien pu se faire une place à l'hôtellerie, hein, c'était pas très difficile pour lui, hein, ça, c'était, non, tout cela, c'est pour notre exemple, ouais. Pas rechercher justement les places trop confortables, trop glorieuses, et ne pas craindre, eh bien, justement, dans des places un peu pauvres, un peu ignorées, obscures, sales, etc. Bon, cela cela n'a pas déplu à Dieu, et donc cela n'a pas de quoi nous déplaire à nous non plus. Oui. Et donc, c'est là, dans cette nuit du 25 décembre, eh bien, que se déroule donc l'enfantement de notre Seigneur. Oui. Oui, raconté par l'Évangile de façon très sobre. Ouais. De façon très sobre. Pendant qu'ils étaient là, arriva le terme auquel Marie devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce que pour eux, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Voilà. Et tout ce que nous savons sur la naissance de notre Seigneur. Mais nous savons quand même, parce que les pères de l'Église et les théologiens, les papes, eh bien, ont scruté un petit peu ce mystère, mais nous savons, et c'est un dogme de foi, bien sûr, que cet enfantement fut un enfantement virginal. La très sainte Vierge Marie est vierge perpétuelle, vierge avant, vierge dans l'enfantement et vierge après l'enfantement. Tout s'est passé sans qu'il y ait la moindre ombre apportée à la parfaite intégrité et virginité de Notre-Dame. Bien sûr, cela est de l'ordre du miracle. Ne cherchez pas des raisons, des explications. Il n'y a aucune explication à donner autre que le miracle. De même que nous verrons sur la fin de sa vie, après la résurrection, notre Seigneur traversait des murs pour venir voir ses apôtres là, dans la maison où ils étaient. Bon, cela ne nous étonne pas trop, parce qu'on est un peu habitué au miracle avec le bon Dieu. Avec Jésus-Christ, bien c'est le même miracle, pratiquement, même miracle de même nature, qui s'est déroulé pour la nativité de Notre-Dame, nativité de notre Seigneur, vous voyez, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Notre Seigneur portait l'enfant Jésus dans son sein, et puis, eh bien, tout d'un coup, eh bien, elle le portait sur ses genoux. Voilà, c'est tout. C'est très simple, vous voyez. Voilà, c'est comme ça, les miracles du bon Dieu, que vous voulez. Sans qu'il y ait pour elle... Il y a la moindre de ces conséquences, de ces un petit peu douloureuses ou fâcheuses, bon, qui sont le lot de toutes les femmes, si vous voulez, quand elles enfantent, rien, aucune douleur, et aucune de toutes ces conséquences un peu pénibles, un peu fâcheuses, d'un enfantement, oui, rien. La preuve, je dirais, bon, une des preuves, peut-être pas. C'est très discret dans l'Évangile, parce que à peine, je dirais, elle avait son enfant, ce petit Dieu, là. Sur ses genoux, entre ses mains, bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle l'a mis au monde, et puis aussitôt, elle l'a enveloppé de l'ange, elle l'a couché dans une crèche. Pas besoin de l'aide de Saint-Joseph, même, ou de sage-femme, ou tu sais quoi. Donc, elle a tout fait elle-même, aucun problème, et au contraire, certainement trop heureuse de s'occuper de son enfant, et certainement très jalouse, en tout cas, de ne laisser cet honneur à personne d'autre, hein, que de le langer, de le bercer, de le coucher dans la crèche, voilà. Et c'est un dogme de foi, vous disais-je, attention. Mais bon, je pense que pour vous, il n'y a pas d'inquiétude, de doute là-dessus, mais on entend dire tellement de choses aujourd'hui, hein, chez les théologiens modernes, enfin théologiens. Appelez ça comme vous voudrez, mais enfin. Ce ne sont certainement pas des théologiens catholiques, en tout cas, mais où on ne craint pas. Dans l'Église catholique, il y a des gens qui ont des places très haut placées. Lisez pour cela Sissi Nono, le Courrier de Rome, et des articles excellents qui ont été faits sur la question, où on ne craint pas de mettre en cause, de mettre en doute, moi, la virginité de Notre-Dame. C'est épouvantable. Et c'est un dogme de foi. Concile du Latran. Si quelqu'un ne confesse pas que Marie sainte, toujours vierge et immaculée, est en un sens propre et véritable mère de Dieu, elle qui, à la fin des siècles, a, sans semence humaine, conçu spécialement et vraiment du Saint-Esprit de Dieu, et vraiment du Saint-Esprit, le Dieu, Verbe lui-même, né de Dieu le Père avant tous les siècles, et qui l'a enfanté sans que se corrompe sa virginité, demeure inaltérable même après l'enfantement, qu'il soit condamné. Anathème. Il n'est pas catholique. Voilà. Celui qui nie la virginité perpétuelle de Notre-Dame avant, dans et après l'enfantement de Jésus-Christ, il n'est pas catholique. C'est tout, alors bon, qu'il se taise et qu'il nous laisse tranquille, cela, et qu'il nous laisse aimer notre maman, comme doivent l'aimer des bons catholiques. Voilà, Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus marquant, de plus doux même, je pense, au cœur d'un catholique. Comment est-ce qu'on l'appelle la Très Sainte Vierge? Eh bien, on l'appelle la Très Sainte Vierge, précisément. C'est quand même pas pour rien qu'on l'appelle la Sainte Vierge. Qu'est-ce que vous voulez faire, ça? Et parmi tous les saints, toutes les saints du paradis, il n'y en a qu'une qu'on appelle comme ça la Très Sainte Vierge, que cela, il n'y en a qu'une. Mais c'est bien ça, c'est cette virginité qui parle le plus, et qui est le plus frappant, le plus marquant, sans doute, au cœur d'un véritable catholique, oui. Et les raisons que donne saint Thomas d'Aquin, parce qu'il examine un petit peu cette question de la virginité, de l'enfantement de notre Seigneur, eh bien, il les emprunte en partie à saint Augustin. Toujours, saint Thomas d'Aquin emprunte beaucoup à saint Augustin, qui est un grand docteur de l'Église. Car celui, dit-il, c'est saint Augustin qui dit cela, celui qui naissait pour guérir la corruption, c'est cela qu'il venait faire. Il venait nous sortir de notre corruption, de notre impureté, de tout ce qu'on peut imaginer. Celui qui naissait pour guérir la corruption ne pouvait aucunement ternir la pureté par sa naissance. Il n'était pas pensable, vous voyez, qu'au moment de sa naissance, lui qui venait nous guérir de la corruption, bien qu'au moment de sa naissance, il ternisse la pureté de sa mère. Et il y aurait une sorte de contradiction. Oui. Ou encore, nous dit saint Thomas, celui qui commande d'honorer ses parents ne pouvait pas diminuer l'honneur dû à sa mère. C'est cet honneur immense que l'on doit à sa mère. Et il est sûr que et la préservation de sa virginité est pour elle un honneur immense, quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et puis une autre raison qui est belle aussi, oui, qui se rattache un peu à ce mystère de Jésus-Christ, oui, la divinité et l'humanité associées dans une seule personne, eh bien c'est que précisément notre Seigneur a voulu manifester la réalité de son corps en naissant d'une femme, oui, une naissance véritable, il a voulu naître d'une femme, voilà. Donc réalité de sa chair, réalité de son corps, réalité de son sang, ce sang qu'il emprunte à la très sainte Vierge Marie. Donc il est véritablement un homme né d'une femme, mais également notre Seigneur manifeste sa divinité en naissant d'une Vierge. Et cet enfantement, donc sans douleur, bien sûr, hein, ça, il n'est pas imaginable. C'était il y a quelques années, j'avais entendu, vous connaissez peut-être, c'est une pastorale des centons, vous connaissez peut-être ça, c'est de Yvan Audouard, je crois. Ouais. Et à un moment, moi j'avoue, c'était ce vieux ça, et je n'étais pas très instruit à l'époque, mais j'avoue que ça m'avait un petit peu choqué. On entend la Vierge qui gémit, et oh là là, dépêche-toi Joseph, parce que ça va arriver. Impensable, impensable. Ça s'est fait sans aucune douleur. Pas aucune douleur. La Vierge n'a pas souffert de l'enfantement de son fils. Enfin, il n'était pas pensable que son fils commençât sa vie humaine en faisant souffrir sa mère, quand même. Enfin, quand même. Il n'était même pas nécessaire, voyez, que la Vierge souffrit. Ce n'était pas nécessaire. Ouais. Il était nécessaire peut-être que Jésus-Christ souffrit, parce qu'il venait nous délivrer de nos douleurs. Mais pas sa mère, il n'était pas nécessaire qu'elle souffrit. Bon, elle souffrira après, bien sûr, mais souffrance spirituelle, souffrance morale, bien sûr, ça c'est clair. Hein. Mais comme le dit saint Thomas, c'est le Christ qui venait souffrir et mourir pour nous, qui venait souffrir et mourir pour nous délivrer de la souffrance et de la mort, et non pas sa mère. Et il est tout à fait normal, au contraire, qu'il ait préservé sa mère de toute douleur dans son enfantement. Oui. Donc la Vierge, à ce moment-là, n'a connu ni corruption, ni douleur, ni souffrance, mais au contraire, la joie la plus grande, la joie la plus complète. Oui. Et puis enfin, une autre question peut-être que l'on peut se poser encore sur cette naissance. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Il s'en parle des choses quand même. Il y en a des choses cachées dans ces petits événements, quelques phrases comme ça de l'Évangile, très simples. Ouais. Et qu'il est bon justement, ouais. c'est tout le bienfait de cette méditation, savoir s'arrêter un peu de temps en temps sur une phrase de l'Évangile pour essayer de comprendre un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est pas très difficile. Ouais. Là, tout ce qu'on vient de dire, vous l'auriez deviné, vous-même certainement, je pense, si vous vous étiez arrêté quelques instants sur ces petits versets de l'Évangile. Bon, c'est clair quand même, quoi. C'est clair que son fils ne peut pas faire souffrir sa maman. Pas possible, ça. Ouais. Et on peut encore donc se poser une question. Eh bien, c'est sûr, pourquoi fallait-il qu'il naisse à Bethléem? Bon, alors bien sûr, il y a les raisons historiques, hein, puisqu'il était de la race de David. Mais il y a également une autre... alors ça, c'est peut-être un peu la piété des pères, mais c'est pas forcément idiot, je dirais. Mais c'est la signification de Bethléem. Le mot Bethléem signifie la maison du pain. C'est la signification étymologique du mot Bethléem. Oui, bon, je ne suis pas très féru, moi, dans ces langues là-bas, mais c'est la signification, nous disent les pères de l'Église, du mot Bethléem, la maison du pain. Et tous les pères de l'Église ont vu, justement, oui, un rapprochement entre ce nom de Bethléem et puis ce qu'était notre Seigneur. Je suis le pain vivant, le pain descendu du ciel. Oui. Donc un rapprochement, certainement, oui, qui n'est pas fortuit, oui, entre ces deux réalités. Voici le pain vivant. Où est-ce qu'il naît? Eh bien, il naît à la maison du pain, à Bethléem. Oui. Alors on peut se demander peut-être, bon, pourquoi, enfin quand même, c'est vrai, puisqu'il était le Fils de Dieu, le roi des rois, etc. Pourquoi ne serait-il pas né à Jérusalem, dans une grande ville, voire même à Rome. Bon, je dirais, toutes ces questions que se pose saint Thomas d'Aquin sont des questions, des objections qui ont été apportées par des hérétiques, des gens qui voulaient nier un petit peu, justement, la réalité de la naissance de notre Seigneur. Et saint Thomas répond, pourquoi est-il né à Bethléem? Eh bien, tout simplement parce que son ancêtre David était né à Bethléem. Tout simplement, il est fils de David, et il manifeste qu'il est fils de David en naissant au même lieu que son ancêtre. Il va donc naître à Bethléem. Et il va continuer le parallèle jusqu'au bout, puisqu'ensuite, David va installer son palais et va construire le temple à Jérusalem, donc la demeure du roi David sera Jérusalem. Eh bien, c'est également à Jérusalem que Jésus-Christ viendra pour vivre au degré maximum sa royauté et son sacerdoce, c'est-à-dire dans sa passion. Voilà. Voilà où Jésus-Christ a exercé, quant à lui, sa royauté et son sacerdoce, c'est dans sa passion. Le sacerdoce du Christ et sa royauté ont surtout trouvé leur achèvement dans sa passion. Et c'est pourquoi, eh bien, c'est à Jérusalem qu'il est venu mourir. Il est né à Bethléem et il est mort à Jérusalem. De la même façon que son ancêtre David était né à Bethléem et avait installé son palais et le temple à Jérusalem. Vous voyez, parallélisme. Vous voyez. C'est normal, puisque David était la figure. Nous avons vu cela l'année dernière, David était une des figures du Messie. Eh bien, la réalité répond à la figure. Ouais. Donc, notre Seigneur naît à Bethléem et mourra à Jérusalem. De même, cette naissance avait aussi pour but de confondre un petit peu toutes nos prétentions, toutes nos vaines gloires. Et c'est pourquoi, eh bien, Jésus-Christ naît. La naissance d'un homme, c'est le moment le plus, en principe, le plus beau, le plus joyeux, que l'on glorifie, tout en l'heure, évidemment. Ouais. Eh bien, il a voulu naître, lui, le Fils de Dieu, dans une ville sans gloire, inconnu des hommes, loin de tout regard indiscret, voilà, dans le silence d'une nuit. Voilà. L'histoire de l'âne et du bœuf, faut pas évangélique, hein, ça. Bon, je suis pas contre, mais je suis pas sûr, hein, méfiez-vous de ça, hein, bon. On peut le croire, c'est pas défendu, mais c'est pas de foi en tout cas. Hein, si quelqu'un vous dit qu'il n'y avait pas d'âne et pas de bœuf, ne le traitez pas d'hérétique. Hein, ça, c'est certainement pas. Donc, naissance dans une ville sans gloire, Bethléem, voilà. Que peut-il sortir de bon de Bethléem? Une ville méprisée, même à l'époque, par les Juifs, vous voyez. Donc, naissance dans une ville sans gloire, mais, au contraire, vous voyez, c'est très très beau tout cela. Il voudra connaître l'opprobre et les plus grandes humiliations dans une ville illustre, Jérusalem. La ville grande, la grande ville, la ville sainte, la ville royale, la ville illustre parmi toutes, eh bien c'est là qu'il voudra connaître les plus grandes humiliations. Ouais. Eh oui, il y a tout cela un petit peu dans ce mystère de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Ou bien encore, vous voyez, d'autres demander, mais pourquoi n'est-il pas né à Rome? Rome, qui était à l'époque la capitale du monde civilisé, le centre de l'univers, Rome était là, bon, la cité des cités à l'époque, eh bien, précisément aussi, vous voyez, pour que, s'il était né à Rome, eh bien, on aurait pu croire que la conversion du monde, on aurait pu croire donc que cette conversion était due précisément à la puissance politique de Rome. Et c'est pourquoi il n'a pas voulu naître à Rome. Il est né à Bethléem, voilà. Pour bien manifester que cette conversion du monde ne devrait rien, rien aux puissances d'ici-bas, aux puissances terrestres, aux puissances politiques. La conversion du monde se fera par la prédication de la croix et par le martyr des chrétiens. Voilà comment se fera la conversion du monde, et pas autrement. Pas par des moyens politiques ou militaires, non. Ça c'est pour les musulmans, mais c'est pas pour nous ça. Non, non, non. Mais en revanche, lorsqu'il s'agira d'installer le siège, le centre, le cœur de son Église, vous voyez, alors là, c'est à Rome qu'il installera, pour montrer précisément, eh bien, qu'il est au-dessus de toutes les puissances terrestres. C'est au cœur du monde civilisé qu'il installera, si on peut dire, le trône, hein, le centre, le cœur de son Église, en signe précisément de parfaite victoire sur les êtres humains, sur les cités, sur tous les royaumes. D'ici-bas, il est roi, non seulement il est roi, mais il est le roi des rois. Et c'est pourquoi le pape, autrefois, portait cette tiare avec les trois couronnes. Voilà. Domination sur tous les rois, avec le triple pouvoir royal. Voilà un petit peu, oui, bon, il y a bien d'autres choses encore que l'on peut dire sur cette nativité, sur cette naissance. Oui. Et qu'est-ce qui ressort, je dirais, le plus le plus peut-être un peu de ces réflexions sur la nativité, mais précisément c'est cette volonté d'humiliation, cette volonté d'humilité, cette volonté de pauvreté, de discrétion de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Et c'est également peut-être aussi cette volonté, je dirais, cette obéissance. Vous voyez, c'est frappant, comme cette obéissance de la Sainte Famille, même, vous voyez. Obéissance même aux autorités civiles. Comme quoi, il faut obéir aux autorités civiles. Attention, ils sont ce qu'ils sont, etc. Vous savez, César Auguste, ce n'est pas un enfant de cœur non plus. Hein. Mais quand il a commandé le recensement, eh bien, Saint-Joseph et la Sainte Vierge, ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas discuté, ils ont pris la route et ils sont allés à Bethléem. Obéissance aux autorités civiles, ouais. De même que nous verrons après, dans quelques autres événements, bien, leur obéissance aux autorités religieuses, à la loi religieuse. La Sainte Vierge et Saint Joseph iront au temple pour la purification de Notre-Dame et la présentation de l'enfant Jésus, alors que ni l'un ni l'autre n'était nécessaire, mais par obéissance, pour nous montrer le devoir de l'obéissance, nous donner l'exemple de l'obéissance. Ouais. Il y aura même encore, après, ouais, un autre exemple d'obéissance, bien, c'est l'obéissance aux dispositions divines. L'obéissance aux voix de Dieu, ouais. Voilà, la naissance a eu lieu, bon, très bien, la présentation a eu lieu, tout ça. On est revenu à Bethléem, on souffle un peu, parce que quand même, bon, voilà, tout ça, ça fait des émotions, un petit peu, quoi. Hein. Et puis, pauvre, là, maintenant, les mages qui arrivent, avant encore une émotion, quoi. Hein, bon, etc. Et puis, à peine les mages ont-ils tourné les talons, oulala, attention, il faut s'en aller. Voilà, un ange. Maintenant, il faut partir en Égypte, et en avant. On remonte à d'autres chameaux, ou à d'autres ânes plutôt. Il faut prendre la route de l'Égypte. Voilà, on s'installe en Égypte, etc. Bon, très bien, on souffle un peu. Et quelques mois après, encore en pleine nuit, toujours en pleine nuit, que le pauvre Saint-Joseph est réveillé, mais enfin, un autre ange qui vient le tirer dit, voilà, maintenant, il faut rentrer à Nazareth. Allez, en avant, obéissance. C'est extraordinaire, ça. Jamais, enfin, en tout cas, l'Évangile est... Il n'y a pas de raison qu'il y en ait eu, jamais nous ne discernons la moindre hésitation, la moindre résistance, vous voyez, cette obéissance parfaite, ouais, de la Vierge, de Saint-Joseph, de notre Seigneur. Et donc, il dénote également une très grande humilité, hein. Les êtres obéissants. On ne peut être obéissant que si on est humble. Celui qui se prend pour quelqu'un, pour quelque chose, il aura du mal à faire la volonté de quelqu'un d'autre, c'est sûr. Hein. Ouais. Parfaite obéissance. Hein, de ces trois êtres qui pourtant sont les êtres les plus saints que la terre ait jamais portés. Hein. Qui peut être plus saint que Jésus-Christ? Qui peut être plus saint que sa mère? Et qui peut être plus saint que Saint-Joseph? C'est beaucoup d'exemples pour nous, hein, beaucoup de leçons, hein, pour nous. Hein. C'est très, très instructif pour nous justement de méditer un peu ces événements très très simples. Nous les connaissons, mais voilà, il ne faut pas passer trop vite. Alors, pour ça, c'était peut-être un petit détail, mais enfin, c'est peut-être pas inintéressant. Quelle est la date de Noël, ouais. En quelle année Jésus-Christ est-il né? Ah, en principe, il devrait être né en l'an zéro, ouais, puisque nous comptons le calendrier, là, depuis la naissance de Jésus-Christ. On compte avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ben, manque de chance, il y a eu un petit problème, hein, quand les premiers ont fait les calculs. Ils se sont un petit peu trompés, ouais. La date a été fixée, normalement, primitivement, Noël avait été fixé en l'an 754 de la fondation de Rome. Ouais. C'était un autre point de repère qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Or, il s'avère que Hérode, qui va massacrer les enfants de moins de 2 ans, eh bien, Hérode est mort en 750. Aïe! Il y a un truc là, qu'est-ce que vous voulez. Donc, il n'est pas né en 754, il est né avant 750, ça c'est clair. Hein. Et, alors là, bon, il est difficile d'avoir une certitude, mais la date la plus probable, bon, c'est au moins 749, peut-être 748, mais vraisemblablement 747. Bon. Meurtre, ça c'est pas, il n'y a aucune certitude, donc à peu près, donc si vous voulez, entre 747 et 749, ce qui veut dire, eh bien, qu'actuellement nous sommes en retard de 5, 6, voire 7 ans. Et donc nous ne sommes pas en 1992. Eh oui, de l'ère chrétienne, notre Seigneur est né en fait, mais nous sommes peut-être en 1998. Peut-être, hein, ça. C'est possible, hein? Donc attention, le troisième millénaire est peut-être pour très très bientôt, méfiez-vous, vous savez, tous les gens qui nous prédisent tout un tas de catastrophes ou de je ne sais quoi pour le l'an 2000, ben, peut-être qu'on a déjà passé, mais on ne sait jamais, ça, méfiez-vous. Hein? Comme quoi, vous savez, toutes ces choses-là sont très relatives, hein? Une question de date et de temps. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, Il est certain, en tout cas, que notre Seigneur n'est pas né donc à la date, en l'an 0. Il est né donc en l'an moins 4 ou moins 5 ou moins 6. Ouais, donc il faut rajouter au moins 4 ans, sinon 5, sinon 6, à notre calendrier actuel. Bon, ce n'est pas très grave, je pense. J'espère que ça ne vous empêchera pas de dormir. Moi non plus. Voilà. Vous voyez donc la nativité de notre Seigneur. Voilà. Bon, événement très, très simple, mais comme toutes les choses les plus grandes dans, dans la vie de Dieu, si l'on peut dire, les choses les plus grandes se déroulent toujours dans, d'une façon très simple et très discrète. Hein. Très discrète. Même la mort de notre Seigneur, vous voyez, ça va être très discret, bien sûr. On en parle dans les évangiles, mais bon, ça s'est fait comme ça, presque de façon inconnue. Vous voyez. Même la résurrection, ça va se passer très discrètement. Ouais. Personne n'en sera témoin, ou quasiment, etc. Ouais. Tout se passe toujours avec le bon Dieu très, très discrètement. Eh bien, apprenons peut-être nous aussi à être discrets, même quand nous faisons le bien, et surtout quand nous faisons le bien. Eh oui. Bon, cela dit, il s'agissait quand même peut-être de faire connaître un peu cette naissance du Christ, parce que quand même, si personne n'avait été au courant de la naissance de notre Seigneur, ben, il y aurait un petit problème quand il fallait le faire connaître, vous voyez. Mais, il n'était pas convenable, vous voyez, de le faire connaître à tout le monde. Oui, c'était possible, bien sûr, qu'au moment de la naissance, en avant, les anges aillent sonner de la trompette sur tout l'univers pour faire connaître la naissance du Fils de Dieu. C'était possible, c'est vrai. Et saint Thomas d'Aquin dit, ben non, c'était pas, ça n'aurait pas été bien, ça n'était pas convenable, vous voyez, pour plusieurs raisons. Alors, c'est des raisons qui peuvent peut-être un peu nous surprendre, dit quand même, ça aurait été bien, quoi, hein, c'est, voilà, pfff. Si tout le monde avait été averti, la naissance du Fils de Dieu, voilà, c'est le Messie, il est né à Bethléem, venez tous le voir, pendant. Ah, ben c'est bien, ça y est, tout le monde serait venu, tout le monde l'aurait adoré, et puis c'était fini, on avait gagné, quoi. Hein. C'était pas la peine d'aller plus loin. Eh oui. Mais d'abord, c'était pas ce que le monde y avait décidé, ça c'est l'argument toujours massu. Hein. Mais ça n'aurait pas été suffisant, en plus. Ça n'aurait pas été suffisant, car de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de réparer le péché. Il s'agissait de racheter, de sortir l'homme de son péché. Il s'agissait d'expier le péché des hommes. Et donc, il fallait que notre Seigneur meure sur la croix. C'était nécessaire. Or, si tous les hommes étaient venus adorer Jésus-Christ, ils ne l'auraient pas mis en croix. C'est ce que dit saint Paul, je crois, dans l'Épître aux Corinthiens. S'ils avaient connu le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Oui, et oui, si tous les hommes avaient reconnu la divinité de Jésus-Christ, ils ne l'auraient pas mis en croix. Et donc, eh bien, la rédemption n'aurait pas eu lieu. Et donc, nous serions toujours dans nos péchés. Le péché n'aurait pas été détruit, le péché n'aurait pas été mis à mort, et nous serions toujours sous la domination de Satan. Nous adorerions peut-être Jésus-Christ, peut-être, nous aurions la foi en lui, sans doute, mais nous aurions toujours en nous le péché. Le péché ne serait pas détruit. Or, c'est cela qui est venu faire Jésus-Christ avant tout et par-dessus toute chose. Donc, il ne fallait pas, justement, que sa naissance, eh bien, soit comme ça proclamée à l'univers entier. Cela aurait en plus, nous dit saint Thomas, diminué le mérite de la foi. La foi qui est la certitude des choses invisibles, nous dit saint Paul, hein, qui est la substance des choses invisibles. Et la foi a besoin du mystère. Oui. Donc si la chose était éclatante, visible, patente, oui, bien, la foi n'a plus, à la limite, n'a plus de raison d'être. On ne croit pas ce que l'on voit. C'est clair, ça. Oui. Entre la vision et la foi, il y a antinomie. Si je veux croire, la foi nécessite qu'il y ait la ténèbre, l'obscurité. Oui. Quand je vois quelque chose, je n'y crois plus. Je le vois, c'est tout. C'est fini, terminé. Oui. Et la foi, eh bien, nécessite justement bien qu'on ne voit pas, qu'on n'ait pas cette certitude, cette évidence. Oui. Et donc, l'évidence de la nativité, de la naissance du Christ, eh bien, aurait diminué le mérite de la foi. Et puis, encore une raison. Et tout cela se tient. Hein. Eh bien, c'est que cette manifestation, donc, hein, comme ça, un petit peu glorieuse, oui, surtout de la surface du globe, à tout l'univers civilisé, et aurait nécessité la mise en œuvre de moyens quand même peu ordinaires. Hein. Il a fallu faire pas mal de remue-ménage, etc. Envoyer pas mal d'anges un petit peu dans tous les coins. Et donc, ça aurait mis très, très en lumière la divinité de Jésus-Christ. Ouais. Bon, cette annonce, cette manifestation un petit peu miraculeuse, comme ça, un petit peu grandiose. Et donc, ça aurait pu faire mettre en doute la réalité de son humanité. Or, il ne faut pas que l'on puisse douter de son humanité. Il est homme. Ouais. Donc, pas de grand tapage, pas de grand truc extraordinaire. Voilà. Il reste un tout petit enfant. Voilà. Il faut que l'on croie à son humanité. Et c'est ça, oui. C'est là peut-être un peu ce qui rend difficile la foi en notre Seigneur, c'est qu'il faut croire en sa divinité, mais il faut croire aussi en son humanité. On ne peut pas privilégier l'un sur l'autre, il est vrai Dieu et vrai homme. Oui. Donc si on accentue trop le côté extraordinaire, divin, majestueux de Jésus-Christ, ben on risque finalement d'introduire un petit peu un doute sur l'humanité de Jésus-Christ. Et vice versa. Et c'est ce qui a scandalisé justement les apôtres ou certains au moment de la mort de Jésus-Christ. Ils n'ont plus vu que son humanité. Ils ont vu cette mort humaine et ils n'ont plus vu la divinité qui était là. Oui. Non. Et bien à la naissance, nous trouvons la chose inverse, il s'agit de manifester son humanité. C'était cela qui était le plus important au moment de la naissance, et bien que l'on croit à la réalité de son humanité. Oui. Bon, cependant, il fallait quand même la manifester d'une certaine façon, au moins à quelques-uns. Qu'il y ait quelques témoins de la nativité, de la naissance de Jésus-Christ. Quelle manifestation à quelques-uns, par qui? Eh bien, cette révélation, cette connaissance parviendrait aux autres ensuite, qui iraient ensuite porter la nouvelle. Et il fallait que ces témoins soient des témoins crédibles. Et c'est pourquoi il fallait qu'il y ait d'autres témoins que Saint Joseph et Notre-Dame. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Quand on est de la famille, eh bien, ma foi, on est des témoins un petit peu, je dirais pas, sujets à suspicion, hein, je ne sais pas, mais je crois que dans les procès trucs comme ça, on peut pas être témoin si on est membre de la famille, si on est apparenté à l'accusé, ou truc comme ça, parce que les témoignages des proches sont toujours un petit peu sujets à discussion. Donc il faut d'autres témoins que les parents de cet enfant. Oui. Il est sûr que la Vierge et Saint Joseph pouvaient tout à fait témoigner de la naissance et de l'humanité, de la divinité de leur fils, mais il fallait d'autres témoins, et bien que Dieu, justement, va chercher hein, autour de la Sainte Famille, pas seulement les parents, mais d'autres témoins. Et ces témoins, quels vont-ils être? Eh bien, des hommes de toutes conditions. C'est extraordinaire, c'est vrai, hein, Dieu est allé chercher vraiment dans toutes les conditions. D'abord les pasteurs, ces pasteurs qui vont être... peut-être un peu réveillés, peut-être qu'ils somnolaient un petit peu, c'est pas impossible, mais enfin qu'ils vont être informés par les anges qui étaient là, à proximité, dans les champs, en train de garder leurs troupeaux, ces pasteurs qui sont des juifs. Sont des gens du pays. Il y aura les mages également, qui eux ne sont pas des juifs. Les mages sont ce qu'on appelle des gentils, des gens des nations, venus de loin. Ils ne sont pas des juifs, oui. Donc, des juifs sont avertis, et des gentils sont également avertis. Les pasteurs qui habitaient près, et les mages qui habitaient loin. Et tout cela, vous voyez, ces deux-là, au moins, vont se réunir là, à la crèche, se retrouver à la crèche, vous voyez, sorte de réunion un petit peu auprès de notre Seigneur, précisément, bien de toutes les nations, les juifs et les autres nations, les gentils. Vous voyez, ainsi, toutes les nations sont averties. Vous voyez. Mais également, les simples sont avertis, les pasteurs, qui sont des êtres simples, frustres, ce qui ne veut pas dire bêtes, hein, attention, mais simples, simplement. Donc les simples, les gens simples sont avertis, mais également des gens instruits, des sages, comme sont les mages. Des justes vont être informés également, des justes. Ce sera le cas de Siméon et de Anne, la prophétesse, lors de la présentation au temple, vous voyez, qui sont des justes. Ils appartiennent à la loi et ils observent saintement la loi, ils sont justes devant Dieu. Mais également des pécheurs. Des pécheurs vont être avertis. Les mages ne sont pas du peuple choisi, bon, eux. Nous ne savons trop quelles étaient exactement leurs conditions, mais il n'est pas interdit de penser que leur vie n'était pas tout à fait exemplaire sous le rapport de la foi, ne serait-ce que cela, oui. À force d'observer les astres et les nuages, parfois on finit par croire des choses un peu étranges. Hein. Mais enfin, ils ont été dociles, au moins, à cet astre nouveau qui leur est apparu. Oui. Des hommes et des femmes, mais oui. Il y a plus d'hommes que de femmes, peut-être, mais enfin, il y a aussi une femme, quand même, Anne, hein, la prophétesse dans le temple. Oui. Des vieillards également, le vieillard Siméon, donc des hommes jeunes et des hommes vieux, oui, des hommes de toutes les conditions, ce qui fait que bien que pratiquement toutes les catégories de personnes sont informées de la naissance du Christ, mais un petit nombre, oui, ils sont peu nombreux. Les bergers, combien sont-ils? On ne sait pas, mais pas très nombreux. Les mages, ils sont trois. Anne et Siméon, ils sont deux, ouais, ça ne fait pas beaucoup, hein. Donc une dizaine de personnes au total qui vont être informées. Et c'est par eux ensuite eh bien, que la nouvelle va se transmettre. Ouais. Et également, on peut voir dans cette manifestation de la naissance du Christ déjà une figure de ce que sera la manifestation de l'Évangile. Oui, notre Seigneur dira que l'Évangile doit être d'abord prêché aux Juifs avant d'être porté aux gentils. Donc il prêche d'abord aux gens de son peuple, aux gens de sa race, et ensuite, eh bien, c'est les apôtres. Notre Seigneur peut-être aussi, mais surtout les apôtres qui iront ensuite prêcher aux autres nations. Eh bien, ici, vous voyez, dans la manifestation de la naissance du Christ, c'est la même progression qui est observée. D'abord les Juifs, les pasteurs, ce sont eux qui sont informés les premiers. C'est le peuple élu qui est d'abord informé, et ensuite, eh bien, ce sont les mages. Et même, vous voyez, les premiers informés, c'est les Juifs. Bon, vous avez les pasteurs, et ensuite vous aurez Anne et Siméon, qui sont des Juifs également. Et ce n'est qu'ensuite. Et les mages, donc les nations, les gentils, seront informés les derniers. Les derniers. Mais d'abord, le peuple élu, c'est normal qu'il soit privilégié. Et puis ensuite, sur cette manifestation de la naissance du Christ, donc qui ne se fait pas à tous, mais qui se fait quand même à quelques-uns, choisis un petit peu, dans toutes les conditions, eh bien cette manifestation, ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui va la faire. Et pas lui qui va la faire. Lui, précisément, il faut qu'il révèle la vérité de son humanité. Donc lui, il va rester silencieux, discret. Et donc il va falloir que sa divinité, sa puissance divine, soit manifestée par d'autres. Vous voyez, encore une fois, il ne fallait pas que la révélation de sa divinité obscurcisse la vérité de son humanité. Donc cette révélation de sa divinité, elle va être confiée à d'autres. Lui, il va manifester au contraire sa petitesse, sa faiblesse, sa fragilité. Je suis véritablement un enfant. Voilà. Et cette puissance divine, donc, va être révélée par d'autres. Il ne manifestera sa divinité que plus tard. Voilà, au temps convenable, le temps qui convient précisément à sa sagesse. Vous voyez. Et c'est pourquoi, quoi qu'en disent certains évangiles apocryphes ou autres, voyez, notre Seigneur ne fera pas de miracle dans son enfance. Il est inconcevable, même inconvenant, voyez, d'imaginer que notre Seigneur se soit amusé, on peut dire, à faire des miracles dans son enfance. Il y a eu malheureusement des évangiles apocryphes, qu'on appelle les évangiles de l'enfance ou d'autres, qui racontaient des tas de choses. Oh, c'est gentil, c'est sympathique, peut-être, c'est notre Seigneur qui fait des poissons, non, des petits oiseaux en argile, et puis il saute dessus, et puis l'oiseau qui s'envole. Bon, c'est gentil, mais voilà, ça fait rire, quoi. Non, l'Évangile nous dit le contraire. Que le premier miracle de Jésus-Christ, il l'a fait à Cana. Alors, pourquoi imaginer qu'il ait fait d'autres miracles avant pour s'amuser, pour amuser les copains ou pour amuser sa maman? Enfin, comme notre Seigneur ne s'amusait pas à ce genre de futilité. Hein. Le miracle a une raison d'être, hein. Dieu ne fait pas des miracles comme ça pour passer le temps ou... Non, le miracle a une raison d'être. C'est pour manifester sa divinité, c'est pour susciter la foi, pour récompenser la foi, mais ce n'est pas comme ça pour passer le temps. Bon, Dieu ne fait pas des miracles parce qu'il ne sait pas quoi faire, hein, attention. Donc notre Seigneur, eh bien, au contraire, a caché sa divinité jusqu'au temps convenable. Et ce temps convenable, eh bien, ce sera celui de son entrée dans la vie publique, son baptême, son jeûne, et ensuite, eh bien, le début de sa vie publique. Jusque-là, il ne fera pas de miracle. Et donc, sa divinité, eh bien, c'est à d'autres qu'il appartient de la révéler. Et quels sont ces autres? Eh bien, ça va être des anges, d'abord, et puis ça va être aussi cette étoile. Eh oui, cette étoile mystérieuse qui va aller chercher les mages, là-bas, dans leur Orient, pour les conduire jusqu'à Bethléem, hein, c'est des anges et donc cette étoile, ouais. Des signes qui sont des signes, et qui sont des signes adaptés à la condition de chacun. Ouais, pourquoi, par exemple, des anges? Pour faire connaître la naissance de l'enfant Jésus aux Juifs. Eh bien, parce que les Juifs étaient habitués aux anges, tout simplement. Lisez l'Ancien Testament, c'est sans cesse qu'on voit des manifestations d'anges. Et encore, là, bon, pour l'Annonciation, mais pour l'annonce également de la conception, de la nativité de Saint Jean-Baptiste, c'est encore un ange qui vient prévenir Zacharie. Et tout l'Ancien Testament est ainsi parsemé d'interventions angéliques. Et donc les Juifs étaient habitués plus ou moins au monde des anges. Voyez. Et donc c'était un moyen qui leur convenait, auquel ils étaient plus ou moins habitués. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas surpris quand un ange survenait tout d'un coup dans leur vie, mais bon, malgré la surprise, ben oui, des anges, c'est normal. Dans le peuple hébreu, c'est normal. Pourquoi des anges en plus? Eh bien parce qu'il s'agit de manifester donc la divinité. Or, que sont les anges? Eh bien, ils sont les ministres de Dieu, précisément. Et donc, il est tout à fait normal que Dieu envoie ses ministres pour se faire connaître, pour révéler sa divinité et révéler la divinité de son Fils. Oui. Alors que pour les mages, eh bien, c'est une étoile. Pourquoi? Eh bien, parce que ces mages, précisément, étaient plutôt, eux, habitués à scruter un peu la voûte céleste, le cours des astres, etc. Bon, tout un tas de sciences un peu étranges, l'astrologie, etc., ce qui n'est pas mauvais, forcément, mais enfin, ils étaient plutôt habitués à scruter les étoiles, les planètes, et donc, ils étaient plus sensibles à la signification, justement, de ce qui se passait dans le monde des planètes. Et donc, c'est pourquoi Dieu a fait surgir, là, au milieu de ce monde des planètes, là, une étoile nouvelle, qu'ils n'avaient jamais vue. Bien sûr, si c'était une étoile à laquelle ils étaient habitués, ça ne les aurait pas troublés du tout, ils n'auraient rien fait. Donc, une étoile nouvelle, qui ne sera pas une étoile normale, hein, attention, hein, l'étoile des bergers, c'est pas Jupiter ou je sais pas quoi, etc., c'est pas une étoile qui fait partie de la constellation céleste, hein, c'est une étoile nouvelle. Alors, quelle est-elle ? Un signe, sans doute, un signe tout simplement dans le ciel qui va se déplacer, là, au gré de Dieu, pour guider les mages dans leur marche, oui, dans leur recherche. Oui. Donc, des anges pour les juifs, une étoile pour les mages. Et puis ensuite, il y a encore cette troisième catégorie, là, les justes. Anne et Siméon, eux, ce ne sont ni des anges, ni une étoile. Eux, c'est tout simplement parce qu'ils sont justes, précisément, parce qu'ils sont saints, vous voyez, parce qu'ils sont... dans l'amitié de Dieu, ils sont dans la recherche, oui, dans l'amitié, dans l'union avec Dieu. Vraiment, ils louent Dieu toute leur journée. Eh bien, de quoi Dieu va se servir pour leur faire connaître la présence de son Fils? Tout simplement d'un instinct intérieur. Oui, c'est le Saint-Esprit qui va parler au fond de leur cœur. Oui. Et c'est comme ça que Dieu fait avec les justes. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est en état de grâce, quelqu'un qui vit de foi, qui, dont la vie est vraiment toute, je dirais, toute théologale, toute centrée sur Dieu, mais celui-là n'a pas besoin de signes extérieurs. Et Dieu suscite dans son âme, suscite dans son cœur, eh bien, des instincts intérieurs qui lui disent où est la vérité. C'est l'instinct de la foi. Voilà. Et quand le vieillard Siméon a vu arriver cet enfant au temple, entre son papa et sa maman, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui, au fond de son âme, lui dit, ben voilà, c'est le Messie, il est là. Deo gratias. De même pour Anne, mais aucun signe extérieur, mais uniquement des signes intérieurs, un instinct intérieur, oui, adapté donc à leur sainteté, à leur état de grâce. Oui. Alors il y aura ensuite, on va peut-être s'arrêter quand même, hein, parce qu'il y a encore bien des choses à dire, je ne vais pas vite, mais enfin c'est tellement beau tout ça. Il y aura quelques autres événements encore, vous voyez, dans l'enfance de notre Seigneur. Il y aura 8 jours après la circoncision de l'enfant Jésus, et l'imposition de son nom, qui correspond à notre baptême, à nous. Voilà. Il y aura ensuite, 40 jours après, la présentation au temple et la purification de la très sainte Vierge Marie. Et il y aura encore après, alors ça, on ne sait pas très bien combien de temps après, ça, c'est, il y a une sorte de mystère, là, un petit peu, autour des mages. À quel moment sont-ils arrivés? Difficile à savoir. Hein, les historiens ne sont pas tous d'accord, hein. Donc la visite des mages, et puis ensuite la fuite en Égypte, hein, vous connaissez tout cela, puis le retour à Nazareth, hein, c'est tout cela, là, l'enfance de notre Seigneur, et tout cela est aussi est tout plein de signification. Et si vous lisez les évangiles, vous risquez d'être un peu surpris, voyez, on va peut-être finir par ça, justement, cette question de l'ordre des événements. Voyez, vous avez deux évangiles, notamment, qui ont l'air de se contredire, mais qui ne se contredisent pas. N'ayez crainte, c'est pas possible, cela. C'est Saint Luc et Saint Matthieu. Vous voyez, par exemple, Saint-Luc vous dira, après le récit de la présentation, voilà, après avoir satisfait aux prescriptions de la loi du Seigneur, ils étaient retournés en Galilée dans leur ville de Nazareth. Donc, vous voyez, si vous suivez bien Saint-Luc, donc après la circoncision, l'imposition du nom, il y aura 40 jours après la présentation au temple, et après... retour en Galilée, dans la ville de Nazareth. Ah. Alors les mages, où sont-ils là-dedans? Eh bien, Saint-Luc n'en parle pas. Oui, vous ne trouvez pas dans Saint-Luc le récit de l'adoration des mages et de la fuite en Égypte et du retour à Nazareth. Oui, donc Saint-Luc, sous les, hein, il a fait une sorte de raccourci, je ne trouvais pas le mot. Hein. Il a fait un petit raccourci, oui. Il a sauté directement de la présentation au retour à Nazareth, sans passer, sans mentionner donc même l'adoration des mages, la fuite en Égypte et le retour à Nazareth. Vous voyez, ce qui, eux, donc, prêtait un peu à confusion. Donc, après la présentation, ils sont rentrés à Nazareth. Ah. Alors, les mages, où les placer? Alors, il faudrait les placer à ce moment-là, les mages, peut-être avant la présentation. Vous voyez, vous me suivez là? C'est un peu compliqué peut-être un petit peu. Et si on veut donc, d'après le récit de Saint-Luc, puisque après Jérusalem, la présentation, ils sont rentrés à Nazareth, or, Nous savons que les mages sont venus l'adorer à Bethléem. C'est là le point important. Ouais. Donc, c'est que les mages sont venus l'adorer avant la présentation. C'est clair. Donc, entre eux, peut-être le 8e et le 40e jour, puisque la présentation a eu lieu le 40e jour. Ce qui veut dire qu'ils ont fait vite. C'est possible, ça. Bon, ils ont pu marcher à dromadaire bride abattue, ça c'est possible, ça. Mais, bon, enfin voilà. Puis il y a autre chose qui est beaucoup plus inconvenant, me semble-t-il, c'est que si, donc, vous placez la visite des mages avant la présentation, donc c'est ça la question, hein, nous plaçons les mages avant la présentation, donc les mages sont arrivés, ils sont allés à Jérusalem. Ils ont été reçus par le roi Hérode, qui leur a dit, allez trouver le petit, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, que j'aille moi aussi l'adorer. Tiens, mon œil. Ouais. Ce qu'il voulait, c'était se débarrasser d'un concurrent gênant ou dangereux. Bon, après l'adoration, les mages à Bethléem, l'ange leur dit, oula, attention, rentrez chez vous, mais par un autre chemin, ne repassez surtout pas à Jérusalem, parce que sinon ça va chauffer deux minutes, etc. Les mages repartent de leur côté, et pendant ce temps-là, Hérode, lui, commence à se mettre un petit peu en pétard, hein, excusez-moi, mais enfin, voilà, il commence à bouillir un petit peu, quand même, qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est à ce moment-là qu'on verrait Saint Joseph, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus venir un peu naïvement à Jérusalem, au temple. Vous imaginez la chose? L'imprudence pour eux? Oui. Vous imaginez un petit peu que la Sainte Famille soit venue à Jérusalem au moment où Hérode était en colère, oui, et attendait encore le retour des mages, oui, pour aller massacrer l'enfant Jésus. C'est impensable, oui. Certainement pas. Et la présentation ne peut pas avoir eu lieu après la visite des mages. C'est pas possible. Il n'est pas pensable, vous voyez, qu'ils soient allés à Jérusalem se jeter dans la gueule du loup, si l'on peut dire. Vous voyez. Là, alors que Hérode, justement, ne voulait qu'une chose, c'était mettre à mort l'enfant Jésus. Non, on est obligé, donc c'est... Et oui, mais il n'y a pas de contradiction, simplement Saint-Luc ne parle pas de ça. Il ne parle pas de la visite des mages et de la fuite en Égypte. Bon, ben voilà. Et c'est Saint-Matthieu qui, lui, nous raconte justement la visite des mages, la fuite en Égypte. Et puis ensuite, eh bien, le retour à Nazareth. Là, ça va bien, oui. Donc, si vous voulez, l'ordre est très simple, je crois, à retrouver. Donc, la naissance, la circoncision, pas de problème. Il est probable qu'entre-temps, d'ailleurs, le recensement étant plus ou moins fini, bon, pas mal de gens sont repartis, rentrés dans leur pays, et donc peut-être quelques habitations ont pu se libérer pour la Sainte Famille. Bon, ils se sont donc installés peut-être un peu mieux quand même, un peu plus à l'aise. Hein. 40 jours après, ils vont au Temple, à Jérusalem, présentation, purification, et puis retour à Bethléem. Bethléem, Jérusalem, c'est très proche, hein, 9 kilomètres, je crois. Donc c'est un petit déplacement qui ne présente pas beaucoup d'inconvénients pour un petit. Il est tout petit encore, hein. Il a 40 jours, bon, c'est encore fragile quand même. Même s'il est Dieu, il faut veiller sur sa santé quand même, faire attention. Donc je pense que la Sainte Vierge n'avait pas du tout envie de faire un grand voyage, donc il est normal qu'il soit revenu à Bethléem. Voilà, tranquille, on attend, et puis c'est à ce moment-là, bien, bon, quelques mois après peut-être, on ne sait pas trop, que les mages sont arrivés. Voilà, et effectivement, d'ailleurs, le récit de l'adoration des mages, nous le verrons peut-être, hein, bien dit bien justement qu'ils l'ont trouvé dans une maison. Hein, on ne parle plus de la grotte à ce moment-là, ou de l'état, vous voyez, mais on parle d'une maison, d'une demeure, hein, vous avez trouvé ça. Hein. Bon, vous trouverez ça. Quand on parle d'une maison à ce moment-là, donc, voilà, mais toujours à Bethléem, hein. Et c'est là que les mages donc, viennent adorer l'enfant Jésus, et c'est ensuite eh bien, que l'ange vient tirer Saint Joseph de son sommeil pour lui dire, ben maintenant, il faut prendre la route de l'Égypte. Hein. Et là, bon, il y a toutes les craintes un petit peu de la Sainte Vierge quant à la santé de son enfant, je dirais, s'évanouissent devant l'ordre venu du ciel. Dieu dit qu'il faut partir, donc on part, pas de problème. Il veillera sur son enfant, et il part en Égypte. Et ensuite, eh bien, après la mort d'Hérode, là, il n'y a plus de risque, donc, retour à Nazareth. Alors, cette fois, ils retournent bien dans leur pays, à Nazareth, et c'est là que l'enfant Jésus va grandir. Hein. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire déjà pour aborder un peu cette étude de l'enfance de notre Seigneur. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser? On ne sait jamais.